Dans cette émission de Wakadi un peu particulière, on vous embarque dans les balades littéraires organisées par le Festival du roman noir de Frontignan. Le FIRN, qui se tient chaque année au mois de mai, réunit des autrices et auteurs de romans noirs autour d'un thème qui donne le ton à l'événement. Mais l'équipe du FIRN déploie chaque année des activités pour lutter contre l'entre-soi, en cherchant à étendre le nombre de lecteurs. Que ce soit des résidences d'auteurs, des ateliers d'écriture avec des publics jeunes et adultes éloignés de la littérature, mais aussi des formations de lecture à voix haute, le projet du FIRN est de faire en sorte que les gens s'emparent des textes un peu autrement, afin de rendre accessible à tous le roman noir. On va entendre ici deux balades littéraires qui se sont tenues entre février et mars 2025, l'une dans le centre-ville de Frontignan, avec Gildas Guyot qui nous lit des morceaux de la nouvelle Vindicte, éditée à Inuit Édition, dans la collection Fraction. La deuxième balade, elle, s'est tenue à Motto, dans la Garrigue, entre l'étang de Thau et l'abbaye de Valmagne, à Villeveyrac, avec deux auteurs, Jérémy Bouquin, pour le livre Paris District Année Zéro, édité à Melmac 4, et Chrysostome Gouriot, pour le livre Dans les Annales, édité chez Ours Éditions. Avant d'embarquer dans ces fragments de récits, qui résonnent dans des lieux particuliers de la région, on écoute Yves Jomain, le responsable du FIRN, nous parler de ses balades.
On a attaqué en janvier 2021, et on a fait des balades à pied, des balades en vélo, des balades en moto, des balades en bateau. Chaque fois, on essaye de créer un décor un peu aux ouvrages que proposent les auteurs. Le but, c'est un, de désacraliser la figure de l'auteur, de dire que l'auteur, c'est un métier comme un autre, il peut marcher avec vous, vous pouvez discuter avec lui en proximité. Et deuxièmement, de continuer à faire entendre la voix des artistes au cœur de la ville, puisque c'est une voix essentielle et qu'il faut protéger. Et le petit écrin là, de deux heures de parenthèse culturelle qu'on crée permet ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on confronte des auteurs à leur propre travail et ils lisent souvent pour la première fois en public. Et même ceux qui ont l'habitude de lire en public, et ils n'ont pas l'habitude de lire en marchant, dans différents lieux, en extérieur, en intérieur, enfin voilà. Tout le monde est un peu sur le fil du rasoir. On crée des fragilités, les gens ne savent pas bien où ils vont. On leur donne la veille l'endroit du rendez-vous, comme une rêve sauvage. Donc voilà, il y a cette forme, ces petites incertitudes qui font que les hasards, ça se rencontre là et ça se passe bien. Habituellement, ça se passe bien. Les gens sont contents, continuent à discuter avec l'auteur, achètent des livres ou pas, s'ils ont les moyens de le faire. On essaye d'avoir des auteurs qui proposent des livres pas trop chers aussi. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est de faire un objet simple, mais qui permet aux gens d'entendre déjà du texte, même s'ils ne vont pas vers le livre après, d'entendre un peu de littérature dans des lieux qui ne sont pas forcément faits pour. Bon, ça vous dit qu'on attaque ? On accueille Gildas Guyot qui vient de Bordeaux, et qui a vécu longtemps dans l'Est de la France, et ça l'a un peu marqué, donc il écrit pas mal quand même sur 14-18, 39-45. Enfin, il est un peu marqué par la guerre.
Je ne les ai pas faites. Hein. Tu vois.
Sur cette première balade, on va marcher dans le centre-ville de Frontignan, sur des intérieurs chez des particuliers, des intérieurs institutionnels, également quelques places, puisque Gildas nous propose de suivre le parcours d'une héroïne qui s'appelle Arsinoé, et qui est tondue en place publique au moment de l'épuration pour être tombée amoureuse d'un soldat allemand. Et donc on va traverser des endroits où probablement à Frontignan, il y a eu à la même période, il y avait 5 femmes qui avaient été dénoncées pour collaboration à Frontignan. Je ne sais pas du tout les motifs réels. Et certaines ont été tondues et marquées sur la place publique, sur les endroits qu'on va probablement traverser, puisque c'était plutôt des exécutions publiques. Donc voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui comme histoire. C'est son troisième roman, toujours chez la maison d'édition Inuit, qui est basée également dans le sud-ouest, une maison d'édition qu'on aime beaucoup. On va être suivi également tout le long de notre balade par non pas deux militantes DRG, mais deux spécialistes de l'enregistrement sonore de l'association Wakadi, qui nous font le plaisir d'être là pour enregistrer un podcast sur ce que c'est réellement une balade. Donc voilà, on a la pression, hein ?
Un peu.
Allez, on va y arriver. Tu voulais un kiosque pour démarrer ? Il y a un kiosque ici, je te laisse prendre place.
J'ai la tête basse, les yeux clos. J'essaie de me concentrer sur le chant des oiseaux pour oublier. C'est lui qui m'a appris à les reconnaître, les oiseaux. Quand je dis lui, je ne parle pas de Bertille. Je parle d'Annès, mon amant allemand. C'est fou, ces mots résonnent en moi comme s'ils avaient été créés pour aller ensemble. C'est son truc, les oiseaux. Avant, il y avait les pigeons. Je savais qu'ils roucoulaient, et puis c'était à peu près tout. Désormais, les hirondelles gazouillent, les mésanges zinzinulent, les moineaux pépillent, les pies babillent, les étourneaux pissotent, autant de verbes dont j'ignorais l'existence avant qu'Annès ne les chuchote au creux de mon oreille, tout doucement, pour ne pas interrompre leur ritournelle. En y pensant, ma gorge se serre. Il n'était peut-être pas français, mais pratiquait notre langue à la perfection, sans aucun accent. Il avait lu Chateaubriand, Voltaire et Montaigne, quand moi, j'avais simplement traversé les rues qui portaient ces noms-là. Il trouvait que nous avions de la chance d'avoir une langue aussi riche. Peut-être un peu moins charmante que celle de nos alliés, plaisantait-il, mais infiniment plus riche. C'est vrai qu'elle est riche, notre langue. Il s'émerveillait du nombre de synonymes que nous avions à notre disposition, de l'usage que nous pouvions en faire, de la multiplicité de sens que chacun d'eux pouvait prendre. La sienne, il la trouvait laide et brutale. C'est vrai qu'elle l'était. Plus brutale que laide, il me semble. Je les haïssais tous, aussi fort que l'on puisse haïr ceux qui parlaient cette langue. Je les exécrais. Tout sauf lui, je n'ai pas réussi. Les cris rebondissent sous la coupole du kiosque, puis s'abattent sur moi comme le tonnerre. Cette clameur étouffe les chants d'oiseaux. Comment pourrait-il en être autrement? Eux ne chuchotent pas. Ils hurlent, ils braillent, ils vocifèrent. Je ne comprends pas tout. Juste les bribes des premiers rangs. C'est sans doute préférable. J'ai du mal à croire que ce que j'entends parle de moi. Que toutes leurs invectives me soient destinées. J'apprends de nouveaux noms d'oiseaux. Je crois comprendre qu'ils caractérisent plus singulièrement les gallinacés. Dans leur guide ornithologique, pas d'hirondelles, ni de mésanges, de moineaux, de pies, aucun étourneau. Seulement des différentes variétés de poules à boche, des salopes, des traînées, des putains, des garces, des coconettes et des catins. Les gens sont vulgaires, ils ont un don pour gâcher les silences dont les autres ont besoin. J'en ai besoin. Je profite des dernières minutes qui me séparent de l'instant où je vais devoir ouvrir les yeux. Tant que j'ai la tête basse, personne ne voit qu'ils sont clos. Derrière la fine pellicule de peau qui me protège des persifleurs, j'essaie de préparer mon regard. Je le veux noir et sec, abyssal, capable de les engloutir. Tous autant qu'ils seront, d'étouffer leur vacarme d'un seul coup, de les faire taire pour de bon, muets à jamais. Je ne veux surtout pas qu'ils soient rouges, surtout plus humides. Je ne supporterai pas qu'ils puissent penser que j'ai pleuré. J'ai pleuré, je l'avoue.
Vindicte de Gildas Guyot.
Alors où il nous amène cette fois?
Mais Frontignan est une ville moyenâgeuse. Donc, on est dans les ruelles du vieux Frontignan.
Et oui, il y a beaucoup de petites ruelles à Frontignan, je trouve, toujours.
Des places, plein de petites places, j'aime bien.
Vous faites souvent les balades littéraires proposées par le FIRN?
Régulièrement, j'adore.
Vous pouvez me dire où on est, là?
Le nom de la place?
Oui, et
il faudrait regarder.
En place de la vieille poste.
Et ça, qu'est-ce que c'est ça?
Ça, c'est la police municipale.
Comme c'est écrit dessus.
Surprenant comme lieu.
Bah, nous aussi, on découvre un peu, parce que la ruelle d'où on vient, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, en fait.
Mais cette place, par contre, on la connaissait quand même.
Là, la ruelle qu'on vient de traverser, de faire, elle est étonnante. Là.
On rentre tous.
On rentre à la police.
On rentre à la police.
Donc, on rentre dans le commissariat de la police municipale de Frontignan.
Tout le monde rentre parce qu'on ne sortira pas par la même porte. Donc, n'hésitez pas à la présenter. Donc, peut-être qu'on ne sortira pas d'ailleurs. Vous n'avez pas peur? On est en sécurité, on a la police avec
vous. On va nous interroger ou pas?
Bon, ça dépend, il faudrait arrêter de déposer.
Où sont les armes?
Vas-y, Jeannot, tombe-moi cette putain. C'est comme ça que j'apprends que le préposé à la tondeuse s'appelle Jean. Je ne suis pas étonné. C'est tellement français, tellement anonyme. Je réfléchis aux gens que j'aurais pu éventuellement croiser, comme ça, pour passer le temps. J'élimine mes amis proches. Pas de gens dans le petit groupe de ceux qui me sont restés fidèles. Il y a bien le patron du bistrot du coin, mais il ne me semble pas l'avoir déjà vu rechigner à servir les boches installées à sa terrasse. Sinon, le vieux qui répare les vélos. Mais lui non plus ne peut pas se targuer d'avoir jamais collé de rustine sur le pneu d'un cheleu. Le simplet de la mère Castel, peut-être ? Il est bien trop gentil. Je ne suis même pas certaine qu'il sache se servir d'une tondeuse. Le docteur de ma cousine, Anne ? Non, ça c'est Paul. Le mari de la mercière ? Non, ça c'est Jacques. Jean reste sagement dans mon dos. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Pourtant, je n'ai pas de peine à l'imaginer. Il doit être bossu. Bossu et ventripotent. Il doit sûrement traîner la patte, le teint vitreux, avec les yeux jaunes, des hommes dont le foie dit non, mais ce n'est pas le foie qui commande. Des grandes oreilles, oui. Des grandes oreilles velues, dedans, dehors. Des cheveux gras aussi. Pas beaucoup, mais gras. Un gros nez, qui passerait presque inaperçu, tant ce qui l'entoure est immonde. Il doit être ignoble. Il faut qu'il soit ignoble. Le genre d'homme qui a forcément une dent contre les femmes, oui, une dent, une seule, et gâtée qui plus est. Je dois penser trop fort. Jean n'aime pas comment je pense. Il n'y va pas de main morte. Je sens les griffes de sa tondeuse mécanique érafler un peu de mon cuir chevelu à chacun de ses mouvements. Mon pauvre Jeannot, je cherche juste à comprendre. En te prêtant la laideur, en te donnant l'alcool, j'essaie de te trouver une excuse recevable. N'y vois pas de mépris. Au contraire, j'ai même de la compassion à ton égard. Moi, ce soir, je ne serai plus là. Je pendouillerai au bout d'une corde, mais toi, mon Jeannot, tu vas continuer ton petit bonhomme de chemin. Tu vas te lever chaque matin en repensant à ce que tu as accompli aujourd'hui. Car tu y en penseras, chaque matin. Les images de toutes ces têtes que tu auras blanchies resteront gravées dans ta mémoire. Elles t'obséderont jusqu'à ton dernier souffle. J'y mettrai ma main au feu. Mon âme y veillera. Pourras-tu alors te regarder dans une glace sans avoir envie de vomir ? Au début, oui. Tu te trouveras même plus beau que la veille. Plus heureux aussi. Convaincu d'avoir participé à laver l'affront. Les souvenirs de cette foule et de ces hurrahs te conforteront en ce sens. Dans ton quartier, les gens te gratifieront de larges sourires et de tapes sur l'épaule, j'en suis sûr. Bravo, Jean, beau boulot. Quelle classe tu avais l'autre jour, si tu t'étais vu. Dis donc, je ne savais pas que tu avais un aussi bon coup de poignet. Mais tout cela ne durera qu'un temps, parce que tout finit par retomber. Crois-moi, Jean, la vie est un soufflet. Dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être moins, quand les autres auront oublié le nom de celui qui tenait l'outil, quand tu seras redevenu Jeannot le Gros, Jeannot le Bancal, Jeannot le Rouquin, enfin une version d'un Jeannot dont chacun tente de donner sa propre description, sans que personne ne soit en mesure de mettre un visage sur le pauvre bougre dont on est en train de parler. Toi, Jeannot le Bois sans soif, Jeannot le Bon à rien, qui fut considéré du jour au lendemain comme la fierté de la nation. Toi, Jeannot l'Inconnu, Jeannot le Trou du Cul, qui mériterait qu'on érige une statue à ta gloire ou bien qu'on rebaptise le parc de l'Hôtel de Ville en ton nom. Toi, mon Jeannot à moi, Jeannot la Sueur, Jeannot la Tondeuse, trouveras-tu le courage de raconter à tes rejetons de quel étrange instrument tu jouas sous ce kiosque en cette fin d'année 44 ? J'ose espérer que non.
Moi, je l'ai beaucoup aimé, ce gars. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, franchement. Parce qu'il parle, tu vois, d'une femme. On a une représentation, tu vois, de ces femmes qui ont été tendues, leurs raisons. Mais là, c'est juste une histoire d'amour, une histoire de rencontre. La rencontre qui fait que ça tombe dans le mauvais timing par rapport à l'histoire collective qui est la libération. Et voilà, quoi. C'est une histoire personnelle qui rencontre pas l'histoire collective. Je sais pas comment te dire, mais en tout cas, il a écrit comme si c'était une femme qui l'avait écrit, parce que dans ces cas-là, les mecs, on les fusille. Quand ils font une saloperie, les mecs, on les fusille. On les a fusillés. Les femmes, on les a humiliées. Donc, tu as la double peine. Encore une fois, tu as cette double peine qui fait que soit elles sont, donc là, elles sont tendues, elles sont marquées. Certaines ont été marquées, blessées. Voilà. Donc, j'ai pas de sympathie particulière pour ces femmes-là, mais quand même, quoi, quand même.
Le livre, c'est pas forcément un livre sur la collaboration, quoi, justement. Je voulais pas tomber dans cet écueil-là, quoi. C'est vraiment sur la manière dont on...
Gildas Guyot.
On traite encore d'ailleurs les femmes et cette faculté de leur infliger des humiliations juste parce que ce sont des femmes.
Comment elles deviennent objets, hein.
Du coup, c'est effectivement à travers un contexte historique, mais la thématique est toujours bien présente aujourd'hui et je trouve que ça fait écho avec ce qu'on vit.
Ouais, complètement. La thématique de l'amour, ça peut-être que ça permet une discussion plus facile avec les jeunes publics.
En fait, l'idée, c'est que je voulais absolument pas que dans ce bouquin-là, on puisse reprocher quoi que ce soit à mon héroïne, en fait. Donc, je voulais qu'elle ait pu être considérée comme collaboratrice parce qu'elle avait été amoureuse, mais je voulais pas qu'on puisse... Parce que, malgré, en dehors du fait que le châtiment, même si on avait collaboré, je trouvais qu'il est assez inhumain. Mais là, je voulais pas qu'on puisse se dire ça.
Gildas Guyot, qui est un sublime auteur, mais qui est apparu juste avant, en 2018, là, il a sorti un premier roman, un second par la suite, toujours chez Inuit. Donc on l'a invité parce qu'il aborde des sujets que peu abordent, même dans la littérature noire, la tonte des femmes, l'épuration, c'est pas un sujet qui est évoqué dans l'histoire, en règle générale, c'est plutôt des sujets, de toute façon comme toutes les violences faites aux femmes, c'est plutôt des sujets mis un peu de côté de l'histoire officielle. Et la littérature noire permet ça, d'aller un peu derrière le décor, quoi. Là on va derrière des bâtiments, on rentre par derrière, l'idée c'est d'illustrer et d'ouvrir des portes grâce à la littérature. Donc Gildas, parce qu'il a écrit ce sublime Vendic, qui est un bouquin pour les adolescents, et je rappelle, pour les plus de 14 ans, dans une collection Faction Inuit, et par le fait qu'il a eu envie de se prêter au jeu, hein, parce qu'il y en a certains qui pensent que c'est pas pour eux, donc voilà. Mais c'est très rare qu'on essuie des refus quand même.
Merci à tous d'être venus pour cette deuxième balade de l'année du Festival International du Roman Noir. On est avec l'infâme Jérémy Buquin qui nous vient de Tours pour Paris District Zéro, une dystopie dans un Paris à feu et à sang, gouvernement d'extrême droite, des no-go, enfin un préfet un peu ouais voilà. Et on est également avec l'ami Chrysostome Gouriot, qui a produit Dans les Annales, sous-titré Spinoza, encul, Hegel, année zéro, qui vous expliquera éventuellement pourquoi, il resituera le contexte s'il le souhaite. C'est édité chez Ours Éditions, ici présent. On est au château de la Pérade, on va partir pour 50 bornes de moto, on va faire 4 arrêts, la dernière lecture sera ici. Première lecture à Ballaruc-le-Vieux, deuxième lecture au bord des temps de Thau, troisième lecture à l'abbaye de Valmagne, qui sera le point culminant de notre balade. Et on redescendra très tranquillement pour faire une dernière lecture là. On aura les bouquins en dédicace avec l'ami Katia Panier, la librairie Nomade. Et on dégustera les vins du château de la Pérade et les huîtres de Haut-des-Tours, un endroit où on va s'arrêter tout à l'heure en bord des temps de Thau. Il y a 5 motos, 5 personnes avec les casques, tout le reste monté dans le camion, et à Bailly d'Allemagne, on permet. Camion, moto. Là, tu descends à gauche. Ouais.
On est où, là, Yves ?
On est à Ballaruc-le-Vieux, qui est une circulade médiévale. Et on est au sommet de cette circulade.
On écoute Jérémy Bouquin, auteur de Paris District Année Zéro.
6 mois déjà, une éternité. La grande chambre a basculé à la droite, de la droite, de la droite. Les généraux ont applaudi, eux qui disaient qu'il fallait ramener de l'ordre dans le pays. Après les crises de la misère, le pays était tendu comme jamais. On sortait des émeutes en cité, des échauffourées sur les Champs-Élysées, certains rêvaient de prendre l'Élysée. Un bordel. Le préfet Maurras est apparu. Petit nasillon, pète sec, flanqué d'une casquette trop large et d'un uniforme aux épaulettes disproportionnées. Il allait les bouffer. Des blocs d'un côté, des syndicats, des anards de l'autre, l'armée en face, tout le monde cherchant à attaquer l'un, l'autre, les chaînes infos en boucle, le pays complètement figé devant des écrans plats LCD, à attendre vers quoi on courait. Des politiques dépassées. Le scrutin, comme la bronca dans la rue, avait débordé une goutte d'eau dans un désertoir à merde. le trop-plein. Tout est parti en quenouille. La France, pays insurrectionnel, avait titré les journaux du matin. Les nuits d'émeutes, le chaos un peu partout, dans les grandes villes, même dans les villages, des mairies dépouillées, des préfectures incendiées, même l'Assemblée de Corse avait demandé l'appui de l'armée du jamais vu. Au bout d'une semaine de révolte, un groupe de généraux, soutenus par des élus, des chefs d'entreprise, des oligarques et des pays amis, ont décidé d'investir le palais. Imposé par autorité, des chars, des hommes, des arrestations en masse, des recours à la force, le tir à balles réel autorisé. La peur devait changer de camp. Silence.
Chrysostome Gouriot, pour Dans les Annales.
Nous avons remonté le boulevard Henri IV de front. Le pas tranquille, arme à la main, quatre cavaliers de l'Apocalypse délestés de leur monture. Les pans du manteau de platé se soulevaient au rythme des bourrasques. Ça faisait classe. Les bottes d'Adonis, elles, claquaient sur le bitume et rendaient un son harmonieux. Il faudrait que je me munisse de tout cela. Nous n'étions pas très loin de la bastoche quand, du haut d'un immeuble, une voix nous a hélés. « Oh !» Nous avons levé les yeux pour découvrir, sur le balcon du dernier étage, une vieille, tassée par les ans. Blouse bleue, permanente assortie, elle se tenait à la rambarde. « Vous allez prendre la Bastille !»« Ça fait 2 siècles que c'est fait, madame !» a rétorqué Momo. « Nous, on se contente d'aller assister à une AG. »« Encore de la parlotte !» a-t-elle râlé. « Quand est-ce que vous allez vous bouger? Vous croyez que c'est en discutant que les choses vont changer ?»« Vous inquiétez pas, » j'ai dit en levant mon flingue. « On a apporté des arguments percutants. »« Ah, voilà de vrais négociateurs !» Elle a tendu le bras derrière elle et s'est mise à agiter un drapeau rouge et noir. « Allez les jeunes, j'ai plus l'âge ni les jambes pour vous accompagner. Mais je suis avec vous. Pendez le dernier des banquiers avec son plus bas taux d'intérêt. » Et le dernier des patrons avec sa première cicave. Et le dernier des équilibristes avec son premier trapèze, a murmuré Platé. Bon, on y va ? On y est allé. Place de la Bastille, c'était un merveilleux bordel. L'après-midi du grand soir, un truc comme ça. En tout cas, l'happy hour. Du monde partout, et pas une seule merguez à l'horizon. Ça gueulait, ça chantait, ça discutait, ça s'invectivait. De l'air libertaire à plein poumon, en apparence en tout cas. À l'intérieur de l'opéra, la salle grouillait de vie, une lourde tension, ainsi qu'un nuage de fumée montait de la foule. Les fauteuils, icônes d'une population grégaire à qui l'on demande de regarder et d'écouter sans participer, avaient été arrachés et entassés sur la droite de l'orchestre. Il fallait jouer des coudes pour avancer, trouver son lieu dans la densité de cette cohue. La faune était sauvage, commençait d'être armée. Si la veille, elle était encore pourvue que de manches de pioches, de baramines, de caillasses et de protections de fortune, des pistolets, des fusils et des couteaux étaient sortis des placards. Les journalistes pouvaient se réjouir, ils allaient se métamorphoser en reporters de guerre. Sur la scène, envahis, elles aussi ont commencé à refouler les sympathisants vers le parterre. On déconnait plus. Certains allaient prendre la parole, on devait leur laisser la lumière des spots. Pas question que ce qui devait être décidé le soit par tous et n'importe qui. Il y avait la plèbe et ceux qui savaient. La pitié, les prêtres et le peuple. Mimétisme politique, réitération nietzschéenne.
Direction à gauche au port de Loupian. Peut-être qu'il a remis un panneau, mais continue. Ça, c'est le deuxième stop Tarbourièche. Et nous, on est au bout, là-bas. Il y a un champ de colchic avant. Il y a une belle lumière aujourd'hui avec le reste des entrées marines.
Vous pouvez me dire où on est ?
Eh bien, vous êtes sur la zone conchilicole ouest, à Port-Loupian, entre Bouzigues et Mez. Et l'exploitation, ça s'appelle Au Détour. Voilà. Donc Alexandre et Jean-Philippe, avec deux terrasses, juste les pieds sur l'eau, vue sur le Saint-Clair, c'est pas mal.
Ce texte est en fait un préquel à ce qu'on appelle aujourd'hui la trilogie spinoziste, écrite par Jean-Bernard Pouy, qui est un des auteurs de romans noirs, de polars majeurs de ces 40-50 dernières années. Immanence 1, 1000 plateaux. Le visage au vent, j'ai profité d'un peu de calme. Il faisait pas chaud, mais je me suis senti reposé. L'air était rempli de l'odeur du goémon, c'était marée basse. J'ai eu envie de marcher pieds nus sur le sable, de rejoindre le bord des vagues. À la limite entre le désert et l'humide, j'ai tout enlevé, ne gardant dans les mains que mes armes, elles devaient, elles aussi, disparaître. Lorsque le froid grisâtre a recouvert mes pieds, je n'ai pas ralenti. Je me suis enfoncé dans l'onde, forçant ma peau à supporter sa morsure, jusqu'à ce que le clapotis atteigne ma maigre poitrine. Je ne pouvais supporter de le laisser recouvrir mes épaules. Alors, j'ai plongé. Exubérante contradiction. Pour atteindre le fond, je me suis abandonné, expulsant de mes poumons le plus d'air possible, provoquant une douloureuse et bienfaisante brûlure. J'ai enfoui mes poings dans un mélange fin de minéraux et de coquillages, jusqu'à atteindre une strate trop dure, et j'ai laissé mes calibres. Je leur offrais un enterrement digne de leurs conditions. Au moment de crever la surface, je me suis senti plus léger, presque propre, avec, entre mes doigts, une poignée de sable. Bel échange. La nature revenait au galop, telle la marée autour du Mont-Saint-Michel. J'ai contemplé l'horizon un long moment. Là-bas, tout au bout, le monde basculait dans le vide. C'était le rien, le néant. La Manche qui se déversait dans le cosmos avant de disparaître dans une écume poussiéreuse. J'ai tourné la tête sur ma droite, vers les falaises qui remontaient direction nord. C'est par là que j'allais partir. Marcher d'abord, pour le reste, on verrait.
Pas du tout une motarde, je fais ça quand j'étais jeune et je me régale, c'est génial parce que on voit différemment.
Abbaye de Valmagne.
Soit on fait les jardins, mais c'est les auteurs qui vont décider.
Non, vaut mieux que ce soit en intimité, vaut mieux qu'on soit dans un coin intime.
Ouais.
Vu ce qu'on se prête à lire.
On va essayer. Bah tiens, une autre entrée sur le côté, là, regarde.
On n'est ni chez lui, ni chez moi, une chambre. Pas un hôtel non plus. Hector, il se méfie. Il a raison. On se retrouve au 89 rue des Singes. Un immeuble de 8 étages. Des cloisons en carton, des fenêtres fumées un peu crasses. Un lit, deux chaises, le strict minimum. Un appartement qu'il loue, pour lui. Un immeuble anonyme, une vue imprenable sur les échangeurs, les tours des cités, les quatre voies quasiment désertes. Une no-go zone du secteur à moins de 300 mètres du territoire. La nuit a été calme, et juste à ce grondement, celui des extracteurs d'air chaud qui ne rejettent les effluves des brumes du matin, des taux de microparticules élevés à voir le voyant rouge qui s'allume. Pas de rideau, pas de volet non plus. Ce matin, le ciel d'hiver est rouge vif, presque encore sans nuages. Une tempête de sable venue du Sahara. C'est de plus en plus fréquent en plein hiver. Un nuage ocre, enrichi au césium 137, résidu d'anciens essais nucléaires, comme une revanche sur nos bronches. Hector grogne. Doucement. S'enroule dans le drap. Il fait chaud dans l'appartement. Le chauffage central est à fond. Dehors, il gèle. Trois pièces dans les hauteurs, les murs couverts de papier peint à fleurs. Profite. Un homme. C'est mon homme. On se fréquente depuis quoi? Deux semaines, trois semaines? On couche ensemble? Pas vraiment. Il sait pour moi. Il sait pour mon pénis, bien évidemment. C'est bien que je suis une femme, que j'ai encore un peu un corps d'homme. Plusieurs fois, je lui ai dit d'oublier, faire abstraction, faire tout comme... Mais lui, c'est pas. Il bande pas. La panne. On est là, l'un contre l'autre, couchés, laconique, presque platonique encore. Il m'embrasse. Il sait pas comment faire, Hector. Je sors mes yeux du plafond cloqué et je tombe sur les siens, sombres, interrogatifs. Il doute. Il m'observe. Mon dos, ma poitrine, mes cuisses. Le drap cache mon entrejambe. Je ne le laisse pas aller plus loin. Je cherche ses lèvres. Je cherche à l'embrasser à nouveau. Lui caresse mon dos, mes fesses, dans le clair-obscur de la fenêtre. Je suis désolé. Il chuchote à nouveau. Je suis désolé. Il s'en veut, mon colosse. Hector. C'est une armoire à glace, le genre de mec carré, puissant, ancien bidas, tatoué dans le dos, les avant-bras, quelques cicatrices courtes sur ses bras. Et il n'y arrive pas. Il peut pas. Ce pénis, mon pénis, encore cet impadis, cela le refroidit. Tu es belle. Il lâche embêté. Il refuse, il devrait pas. Il bloque ce truc troublant, perturbant. Faut du temps, je comprends. Déjà, il accepte ses moments. Il accepte qu'on le se voit. T'inquiète pas. Je laisse un temps. J'aime être avec toi. Il passe ses bras sur mon ventre. Il se presse contre moi, lui dans mon dos, lui qui souffle dans ma nuque. Il cherche des mots. Je vais changer de coupe de cheveux, je lance, pour détendre l'atmosphère. Devenir une autre, devenir encore plus femme. Un peu comme Lorraine Bacall.
Jérémy Bouquin.
Là, on part pour 30 minutes de moto. Et puis, ça va coucher, ça va toucher, ça va être bien. Hein, voilà, ça va être bien. Hein.
On écoute, dans les annales de Chrysostome Gouriot.
On a commencé par la fin et je finis par le début. Théogonie 1, prolégomène à tout spinosisme futur. Rose. La couleur des yeux d'Anna, mon âme, ma muse calcinée, celle avec qui ma jeunesse s'est pulvérisée. Je revois son bûcher un matin froid de printemps. L'explosion de la raffinerie où elle s'était réfugiée pour canarder les poulets à l'entrée de Rouen. Ce foutu morceau de satellite, rentré dans l'atmosphère comme un copeau de bois dans un brasier et boum. Il avait flotté un moment au-dessus de nos têtes dans une grande traînée blanche, formant une corolle, avant de s'écraser sur son corps menu, emportant dans un mugissement terrible la douceur de sa peau. Auparavant, nous avions mené notre road trip médiéval jusqu'à son acmé. Pas longtemps, quelques semaines, guère plus, le temps de retracer le parcours fantasmé de ma belle albinos, de revivre une vie qui n'avait jamais été la sienne, un retour vers le futur carnassier, la rage au ventre, laissant des cadavres sur notre route. Elle était sûre de son droit, de l'issue catégorique de notre vendetta. Il fallait qu'elle remette debout sa vie ravagée, lui donner un semblant de raideur. Elle avait le ciel et la lyre avec elle, et nous avait entraînés dans son sillage sans hésitation.
Bon, on va boire un coup.
Ouais, et acheter des bouquins.
Et acheter des bouquins, ouais, parce qu'il y a la libraire qui est là pour ça. Et les balades, c'est toujours, ça finit toujours bien quand on a... quand on achète le livre et qu'on peut lire chez soi, nettement mieux que les auteurs.
Cette émission a été réalisée par Manon Milon avec l'aide de Clara Killian à la prise de son, dans le cadre des balades littéraires du Chirme de Frontignan en 2025. On remercie les auteurs Gildas Guyot, Jérémy Bouquin, Chrysostome Gouriot, ainsi que l'équipe du FIRN pour leur accueil. Pour connaître les prochaines balades du FIRN, vous pouvez consulter le programme sur le site de frontignan.fr, dans la rubrique « Mes loisirs ». Bonne balade! Avec le soutien du CNL, et de l'association Wakadi.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Si je te...